Consuelo, livre 3, chapitre 85. Le premier mouvement de Consuelo, en rentrant dans la chambre, fut d'écrire à Albert. Mais elle s'aperçut bientôt que cela n'était pas aussi facile à faire qu'elle se l'était imaginé. Dans un premier brouillon, elle commençait à lui raconter tous les incidents de son voyage. Lorsque la crainte lui vint de l'émouvoir trop violemment par la peinture des fatigues et des dangers qu'elle lui mettait sous les yeux. Elle se rappelait l'espèce de fureur délirante qui s'était emparée de lui lorsqu'elle lui avait raconté, dans le souterrain, les terreurs qu'elle venait d'affronter pour arriver jusqu'à lui. Elle déchira donc cette lettre, et pensant qu'à une âme aussi profonde et à une organisation aussi impressionnable, il fallait la manifestation d'une idée dominante et d'un sentiment unique. Elle résolut de lui épargner tout le détail émouvant de la réalité, pour ne lui exprimer, en peu de mots, que l'affection promise et la fidélité jurée. Mais ce peu de mots ne pouvait être vague. S'il n'était pas complètement affirmatif, il ferait naître des angoisses et des craintes affreuses. Comment pouvait-elle affirmer qu'elle avait enfin reconnu en elle-même l'existence de cet amour absolu et de cette résolution inébranlable dont Albert avait besoin pour exister en l'attendant? La sincérité, l'honneur de Consuelo ne pouvait se plier à une demi-vérité. En interrogeant sévèrement son cœur et sa conscience, elle y trouvait bien la force et le calme de la victoire remportée sur Anzoletto. Elle y trouvait bien aussi, au point de vue de l'amour et de l'enthousiasme, la plus complète indifférence pour tout autre homme qu'Albert. Mais cette sorte d'amour, mais cet enthousiasme sérieux qu'elle avait pour lui seul, c'était toujours le même sentiment qu'elle avait éprouvé auprès de lui. Il ne lui suffisait pas que le souvenir d'Anzoletto fût vaincu, que sa présence fût écartée, pour que le comte Albert devint l'objet d'une passion violente dans le cœur de cette jeune fille. Il ne dépendait pas d'elle de se rappeler sans effroi la maladie mentale du pauvre Albert, la triste solennité du château des Géants, les répugnances aristocratiques de la chanoinesse, le meurtre de Zenko, la grotte lugubre de Schreckenstein, enfin toute cette vie sombre et bizarre qu'elle avait comme rêvée en bohème. Car, après avoir humé le grand air du vagabondage sur les cimes du Boehmerwald, et en se retrouvant en pleine musique auprès du Porpora, Consuelo ne se représentait déjà plus la bohème que comme un cauchemar. Quoiqu'elle eût résisté aux sauvages aphorismes artistiques du Porpora, elle se voyait retomber dans une existence si bien appropriée à son éducation, à ses facultés et à ses habitudes d'esprit, qu'elle ne concevait plus la possibilité de se transformer en châtelaine de Riesenburg. Que pouvait-elle donc annoncer à Albert? Que pouvait-elle lui promettre et lui affirmer de nouveau? N'était-elle pas dans les mêmes irrésolutions, dans le même effroi qu'à son départ du château? Si elle était venue se réfugier à Vienne plutôt qu'ailleurs, c'est qu'elle y était sous la protection de la seule autorité légitime qu'elle eût eu à reconnaître dans sa vie. Le Porpora était son bienfaiteur, son père, son appui et son maître, dans l'acception la plus religieuse du mot. Près de lui, elle ne se sentait plus orpheline, et elle ne se reconnaissait plus le droit de disposer d'elle-même suivant la seule inspiration de son cœur ou de sa raison. Or, le Porpora blâmait, raillait et repoussait avec énergie l'idée d'un mariage qu'il regardait comme le meurtre d'un génie, comme l'immolation d'une grande destinée à la fantaisie d'un dévouement romanesque. À Riesenburg aussi, il y avait un vieillard généreux, noble et tendre, qui s'offrait pour père à Consuelo. Mais change-t-on de père suivant les besoins de sa situation? Et quand le Porpora disait « non », Consuelo pouvait-elle accepter le « oui » du comte Christian? Cela ne se devait, ni ne se pouvait, et il fallait attendre ce que prononcerait le Porpora lorsqu'il aurait mieux examiné les faits et les sentiments. Mais, en attendant cette confirmation ou cette transformation de son jugement. Que dire au malheureux Albert pour lui faire prendre patience en lui laissant l'espoir? Avouer la première bourrasque de mécontentement du Porpora, c'était bouleverser toute la sécurité d'Albert. La lui cacher, c'était le tromper, et Consuelo ne voulait pas dissimuler avec lui. La vie de ce noble jeune homme eût-elle dépendu d'un mensonge, Consuelo n'eût pas fait ce mensonge. Il est des êtres qu'on respecte trop pour les tromper, même en les sauvant. Elle recommença donc, et déchira 20 commencements de lettres, sans pouvoir se décider à en continuer une seule. De quelque façon qu'elle s'y prit, au troisième mot, elle tombait toujours dans une assertion téméraire ou dans une dubitation qui pouvait avoir de funestes effets. Elle se mit au lit, accablée de lassitude, de chagrin et d'anxiété, et elle y souffrit longtemps du froid et de l'insomnie, sans pouvoir s'arrêter à aucune résolution, à aucune conception nette de son avenir et de sa destinée. Elle finit par s'endormir et resta assez tard au lit pour que le Porpora, qui était fort matinal, fût déjà sorti pour ses courses. Elle trouva Hind occupé, comme la veille, à brosser les habits et à ranger les meubles de son nouveau maître. « Allons donc, belle dormeuse !» s'écria-t-il en voyant enfin paraître son amie. « Je me meurs d'ennui, de tristesse, et de peur surtout quand je ne vous vois pas, comme un ange gardien entre ce terrible professeur et moi. Il me semble qu'il va toujours pénétrer mes intentions, déjouer le complot et m'enfermer dans son vieux clavecin pour m'y faire périr d'une suffocation harmonique. Il me fait dresser les cheveux sur la tête, ton Porpora, et je ne peux pas me persuader que ce ne soit pas un vieux diable italien. Le Satan de ce pays-là étant reconnu beaucoup plus méchant et plus fin que le nôtre. « Rassure-toi, ami, répondit Consuelo. Notre maître n'est que malheureux, il n'est pas méchant. Commençons par mettre tous nos soins à lui donner un peu de bonheur, et nous le verrons s'adoucir et revenir à son vrai caractère. Dans mon enfance, je l'ai vu cordial et enjoué. On le citait pour la finesse et la gaieté de ses réparties. C'est qu'alors il avait des succès, des amis et de l'espérance. Si tu l'avais connu à l'époque où l'on chantait son Polyphème au théâtre de San Mos, lorsqu'il me faisait entrer avec lui sur le théâtre et me mettait dans la coulisse, d'où je pouvais voir le dos des comparses et la tête du géant. Comme tout cela me semblait beau et terrible de mon petit coin. Accroupi derrière un rocher de carton ou grimpé sur une échelle à quinquet, je respirais à peine. Et malgré moi, je faisais, avec ma tête et mes petits bras, tous les gestes, tous les mouvements que je voyais faire aux acteurs. Et quand le maître était rappelé sur la scène et forcé par les cris du parterre à repasser 7 fois devant le rideau, le long de la rampe, je me figurais que c'était un dieu. C'est qu'il était fier, il était beau d'orgueil et d'effusion de cœur dans ces moments-là. Hélas, il n'est pas encore bien vieux, et le voilà si changé, si abattu. Voyons, Beppo, mettons-nous à l'œuvre, pour qu'en rentrant, il retrouve son pauvre logis un peu plus agréable qu'il ne l'a laissé. D'abord, je vais faire l'inspection de ses nippes, afin de voir ce qui lui manque. Ce qui lui manque sera un peu long à compter, mais ce qu'il a, très court à voir, répondit Joseph. Car je ne sache que ma garde-robe qui soit plus pauvre et en plus mauvais état. Eh bien, je m'occuperai aussi de remonter la tienne, car je suis ton débiteur, Joseph. Tu m'as nourri et vêtu tout le long du voyage. Songeons d'abord au Porpora. Ouvre-moi cette armoire. Quoi ? Un seul habit ? Celui qu'il avait hier soir chez l'ambassadeur ? Hélas, oui, un habit marron à boutons d'acier taillé. Et pas très frais encore. L'autre habit, qui est mûr et délabré à faire pitié, il l'a mis pour sortir. Et quant à sa robe de chambre, je ne sais si elle a jamais existé, mais je la cherche en vain depuis 1 heure. Consuelo et Joseph, s'étant mis à fureter partout, reconnurent que la robe de chambre du Porpora était une chimère de leur imagination, de même que son par-dessus et son manchon. Compte fait des chemises, il n'y en avait que 3 en haillons, les manchettes tombaient en ruine, et ainsi du reste. « Joseph, dit Consuelo, voilà une belle bague qu'on m'a donnée hier soir en paiement de mes chansons. Je ne veux pas la vendre, cela attirerait l'attention sur moi, et indisposerait peut-être contre ma cupidité les gens qui m'en ont gratifié. Mais je puis la mettre en gage, et me faire prêter dessus l'argent qui nous est nécessaire. Keller est honnête et intelligent. Il saura bien évaluer ce bijou, et connaîtra certainement quelque usurier qui, en le prenant en dépôt, m'avancera une bonne somme. Va vite, et reviens. » Ce sera bientôt fait, répondit Joseph. Il y a une espèce de bijoutier israélite dans la maison de Keller, et ce dernier étant pour ces sortes d'affaires secrètes le factotum de plus d'une belle dame, il vous fera compter de l'argent d'ici à 1 heure. Mais je ne veux rien pour moi, entendez-vous, Consuelo? Vous-même, dont l'équipage a fait toute la route sur mon épaule, vous avez grand besoin de toilette, et vous serez forcé de paraître demain, ce soir peut-être, avec une robe un peu moins fripée que celle-ci. Nous réglerons nos comptes plus tard, et comme je l'entendrai, Pepo. N'ayant pas refusé tes services, j'ai le droit d'exiger que tu ne refuses pas les miens. Allons, cours chez Keller. » Au bout d'une heure, en effet, Hyde revint avec Keller et 1 500 florins. Consuelo lui ayant expliqué ses intentions, Keller ressortit et ramena bientôt un tailleur de ses amis, habile et expéditif, qui, ayant pris la mesure de l'habit du Porpora et des autres pièces de son habillement, s'engagea à rapporter dans peu de jours 2 autres habillements complets, une bonne robe de chambre ouatée, et même du linge et d'autres objets nécessaires à la toilette qu'il se chargea de commander à des ouvrières recommandables. « Maintenant, dit Consuelo à Keller quand le tailleur fut parti, il me faut le plus grand secret sur tout ceci. Mon maître est aussi fier qu'il est pauvre. » Et certainement il jetterait mes pauvres dons par la fenêtre s'il soupçonnait seulement qu'ils viennent de moi. « Comment ferez-vous donc, signora, observa Joseph, pour lui faire endosser ses habits neufs et abandonner les vieux sans qu'il s'en aperçoive ?»« Oh, je le connais, et je vous réponds qu'il ne s'en apercevra pas. Je sais comment il faut s'y prendre. » « Et maintenant, signora, reprit Joseph, qui, hors du tête-à-tête, avait le bon goût de parler très cérémonieusement à son ami, pour ne pas donner une fausse opinion de la nature de leur amitié. « Ne penserez-vous pas aussi à vous-même? Vous n'avez presque rien à porter avec vous de la bohème, et vos habits d'ailleurs ne sont pas à la mode de ce pays-ci. » « J'allais s'oublier cette importante affaire. Il faut que le bon monsieur Keller soit mon conseil et mon guide. » « Oui, da. » reprit Keller. « Je m'y entends, et si je ne vous fais pas confectionner une toilette du meilleur goût, dites que je suis un ignorant et un présomptueux. » « Je m'en remets à vous, bon Keller. Seulement je vous avertis, en général, que j'ai l'humeur simple et que les choses voyantes, les couleurs tranchées, ne conviennent ni à ma pâleur habituelle, ni à mes goûts tranquilles. » « Vous me faites injure, signora, en présumant que j'ai besoin de cet avis. Ne sais-je pas, par état, les couleurs qu'il faut assortir aux physionomies? Et ne vois-je pas dans la vôtre l'expression de votre naturel? Soyez tranquille, vous serez contente de moi, et bientôt vous pourrez paraître à la cour, si bon vous semble, sans cesser d'être modeste et simple comme vous voilà. Ornez la personne, et non point la changer. » Tel est l'art du coiffeur et celui du costumier. Encore un mot à l'oreille, cher monsieur Keller, dit Consuelo en éloignant le perruquier de Joseph. Vous allez aussi faire habiller de neuf maître Hind, des pieds à la tête, et avec le reste de l'argent, vous offrirez de ma part à votre fille une belle robe de soie pour le jour de ses noces avec lui. J'espère qu'elles ne tarderont pas, car si j'ai du succès ici, je pourrais être utile à notre ami et l'aider à se faire connaître. Il a du talent, beaucoup de talent, soyez-en certain. En a-t-il réellement, signora? Je suis heureux de ce que vous me dites. Je m'en étais toujours douté. Que dis-je? J'en étais certain, dès le premier jour où je l'ai remarqué, tout petit enfant de cœur à la maîtrise. C'est un noble garçon, reprit Consuelo, et vous serez récompensé par sa reconnaissance et sa loyauté de ce que vous avez fait pour lui. Car vous aussi, Keller, je le sais, vous êtes un digne homme et un noble cœur. Maintenant, dites-nous, ajouta-t-elle en se rapprochant de Joseph avec Keller, si vous avez fait déjà ce dont nous étions convenus à l'égard des protecteurs de Joseph. L'idée était venue de vous. L'avez-vous mise à exécution ?
Si je l'ai fait, signora, répondit Keller.
Dire et faire sont tout un pour votre serviteur. En allant accommoder mes pratiques ce matin, j'ai averti d'abord monseigneur l'ambassadeur de Venise. Je n'ai pas l'honneur de le coiffer en personne, mais je frise monsieur son secrétaire. Et ensuite, monsieur l'abbé de Métastase, dont je fais la barbe tous les matins, et mademoiselle Marianne Martinez, sa pupille, dont la tête est également dans mes mains. Elle demeure ainsi que lui dans ma maison, c'est-à-dire que je demeure dans leur maison. N'importe. Enfin, j'ai pénétré chez deux ou trois autres personnes qui connaissent également la figure de Joseph et qu'il est exposé à rencontrer chez maître Porpora. Celles dont je n'avais pas la pratique, je les abordais sous un prétexte quelconque. J'ai ouï dire que madame la baronne faisait chercher chez mes confrères de la véritable graisse d'ours pour les cheveux, et je m'empresse de lui en apporter, que je garantis. Je l'offre gratis, comme échantillon aux personnes du grand monde, et ne leur demande que leur clientèle pour cette fourniture si elles en sont satisfaites. Ou bien, voici un livre d'église qui a été trouvé à Saint-Étienne dimanche dernier, et comme je coiffe la cathédrale, c'est-à-dire la maîtrise de la cathédrale, j'ai été chargé de demander à votre excellence si ce livre ne lui appartient pas. C'était un vieux bouquin de cuir, doré et armorié, que j'avais pris dans le banc de quelques chanoines pour le présenter, sachant bien que personne ne le réclamerait. Enfin, quand j'avais réussi à me faire écouter un instant, sous un prétexte ou sous un autre, je me mettais à babiller avec l'aisance et l'esprit que l'on tolère chez les gens de ma profession. Je disais par exemple, « J'ai beaucoup entendu parler de votre seigneurie à un habile musicien de mes amis, Joseph Hind. C'est ce qui m'a donné l'assurance de me présenter dans la respectable maison de votre seigneurie. Comment ? Me disait-on. Le petit Joseph ? Un charmant talent, un jeune homme qui promet beaucoup. Ah, vraiment ! Répondais-je alors tout content de venir au fait. Votre seigneurie doit s'amuser de ce qui lui arrive de singulier et d'avantageux dans ce moment-ci.
Que lui arrive-t-il donc ? Je l'ignore absolument.
Il n'y a rien de plus comique et de plus intéressant à la fois. Il s'est fait valet de chambre.
Comment ? Lui ? Valet ? Fi ! Quelle dégradation ! Quel malheur pour un pareil talent ! Il est donc bien misérable ? Je veux le secourir.
Il ne s'agit pas de cela, seigneurie. Répondais-je. C'est l'amour de l'art qui lui a fait prendre cette singulière résolution. Il voulait à toute force avoir des leçons de l'illustre maître Porpora. Ah oui, je sais cela, et le Porpora a refusé de l'entendre et de l'admettre. C'est un homme de génie bien quinteux et bien morose.
C'est un grand homme, un grand cœur.
Répondais-je conformément aux intentions de la signora Consuelo, qui ne veut pas que son maître soit raillé et blâmé dans tout ceci.
« Soyez sûr, ajoutai-je, qu'il reconnaîtra bientôt la grande capacité du petit Hind et qu'il lui donnera tous ses soins. Mais pour ne pas irriter sa mélancolie et pour s'introduire auprès de lui sans l'effaroucher, Joseph n'a rien trouvé de plus ingénieux que d'entrer à son service comme valet et de feindre la plus complète ignorance en musique.
« L'idée est touchante, charmante, me répondait-on tout attendri. C'est l'héroïsme d'un véritable artiste. Mais il faut qu'il se dépêche d'obtenir les bonnes grâces du Porpora avant qu'il soit reconnu et signalé à ce dernier comme un artiste déjà remarquable. » Car le jeune Hind est déjà aimé et protégé de quelques personnes, lesquelles fréquentent précisément ce Porpora.
Ces personnes, disais-je alors d'un air insinuant, sont trop généreuses, trop grande pour ne pas garder à Joseph son petit secret tant qu'il sera nécessaire, et pour ne pas feindre un peu avec le Porpora afin de lui conserver sa confiance.
« Oh ! » s'écriait-on alors, « ce ne sera certainement pas moi qui trahirai le bon, l'habile musicien Joseph. Vous pouvez lui en donner ma parole, et défense sera faite à mes gens de laisser échapper un mot imprudent aux oreilles du maestro. » Alors, on me revoyait avec un petit présent ou une commande de graisse d'ours, et quant à monsieur le secrétaire d'ambassade, il s'est vivement intéressé à l'aventure et m'a promis d'en régaler monsieur Corner à son déjeuner, afin que lui, qui aime Joseph particulièrement, se tienne tout le premier sur ses gardes vis-à-vis du Porpora. Voilà ma mission diplomatique remplie. Êtes-vous contente, signora?
Si j'étais reine, je vous nommerais ambassadeur sur le champ, répondit Consuelo.
« Mais j'aperçois dans la rue le maître qui revient. Sauvez-vous, cher Keller, qu'il ne vous voit pas. »«
Et pourquoi me sauverai-je, signora ? Je vais me mettre à vous coiffer, et vous serez censé avoir envoyé chercher le premier perruquier venu par votre valet Joseph. »«
Il a plus d'esprit 100 fois que nous, » dit Consuelo à Joseph.
Et elle abandonna sa noire chevelure aux mains légères de Keller, tandis que Joseph reprenait son plumeau et son tablier, et que le Porpora montait pesamment l'escalier en fredonnant une phrase de son futur opéra.
Chapitre 86. Comme il était naturellement fort distrait, le Porpora, en embrassant au front sa fille adoptive, ne remarqua pas seulement Keller qui la tenait par les cheveux, et se mit à chercher dans sa musique le fragment écrit de la phrase qui lui trottait par la cervelle. Ce fut en voyant ses papiers, ordinairement épars sur le clavecin dans un désordre incomparable, rangés en piles symétriques, qu'il sortit de sa préoccupation en s'écriant
« Malheureux drôle, il s'est permis de toucher à mes manuscrits !» Voilà bien les valets, ils croient ranger quand ils entassent. J'avais bien besoin, ma foi, de prendre un valet. Voilà le commencement de mon supplice.
Pardonnez-lui, maître, répondit Consuelo. Votre musique était dans le chaos.
Je me reconnais dans ce chaos. Je pouvais me lever la nuit et prendre à tâtons dans l'obscurité n'importe quel passage de mon opéra. À présent, je ne sais plus rien, je suis perdu. J'en ai pour un mois avant de me reconnaître.
« Non, maître, vous allez vous y retrouver tout de suite. C'est moi qui ai fait la faute, d'ailleurs. Et quoique les pages ne fussent pas numérotées, je crois avoir mis chaque feuillet à sa place. Regardez, je suis sûr que vous lirez plus aisément dans le cahier que j'en ai fait que dans toutes ces feuilles volantes qu'un coup de vent pouvait emporter par la fenêtre. »«
Un coup de vent ? Prends-tu ma chambre pour les lagunes de Fusine ? »
Sinon un coup de vent, du moins un coup de plumeau, un coup de balai.
Et qui avait-il besoin de balayer et d'épousseter ma chambre? Il y a 15 jours que je l'habite, et je n'ai permis à personne d'y entrer.
Je m'en suis bien aperçu, pensa Joseph.
Eh bien, maître, il faut que vous me permettiez de changer cette habitude. Il est malsain de dormir dans une chambre qui n'est pas aérée et nettoyée tous les jours. Je me chargerai de rétablir méthodiquement chaque jour le désordre que vous aimez, après que Beppo aura balayé et rangé.
Beppo, Beppo, qu'est-ce que cela? Je ne connais pas Beppo.
Beppo, c'est lui, dit Consuelo en montrant Joseph. Il avait un nom si dur à prononcer que vous en auriez eu les oreilles déchirées à chaque instant. Je lui ai donné le premier nom vénitien qui m'est venu. « Beppo, eh bien, c'est court, cela peut se chanter. »«
Comme tu voudras, »
répondit le Porpora qui commençait à se radoucir en feuilletant son opéra et en le retrouvant parfaitement réuni et cousu en un seul livre.
« Convenez, maître, » dit Consuelo en le voyant sourire, « que c'est plus commode ainsi. »«
Ah, tu veux toujours avoir raison, toi, » reprit le maestro. « Tu seras opiniâtre toute ta vie. »«
Maître, avez-vous déjeuné ? » reprit Consuelo, que Keller venait de rendre à la liberté. As-tu déjeuné toi-même ? Répondit Porpora avec un mélange d'impatience et de sollicitude.
« J'ai déjeuné. Et vous, maître ?»«
Et ce garçon, ce Beppo, a-t-il mangé quelque chose ?»«
Il a déjeuné. Et vous, maître ?»«
Vous avez donc trouvé quelque chose ici ? Je ne me souviens pas si j'avais quelques provisions. »«
Nous avons très bien déjeuné. Et vous, maître ?»
« Et vous, maître, et vous, maître, va au diable avec les questions, qu'est-ce que cela te fait ?»«
Maître, tu n'as pas déjeuné, » reprit Consuelo, qui se permettait quelquefois de tutoyer le Porpora avec la familiarité vénitienne.
« Ah, je vois bien que le diable est entré dans ma maison, elle ne me laissera pas tranquille. Allons, viens ici et chante-moi cette phrase. Attention, je te prie. »
Consuelo s'approcha du clavecin et chanta la phrase, tandis que Keller, qui était un dilettante renforcé, restait à l'autre bout de la chambre, le peigne à la main et la bouche entr'ouverte. Le maestro, qui n'était pas content de sa phrase, se la fit répéter 30 fois de suite, tantôt faisant appuyer sur certaines notes, tantôt sur certaines autres, cherchant la nuance qu'il rêvait avec une obstination que pouvaient seuls égaler la patience et la soumission de Consuelo. Pendant ce temps, Joseph, sur un signe de cette dernière, avait été chercher le chocolat qu'elle avait préparé elle-même pendant les courses de Keller. Il l'apporta, et devinant les intentions de son ami, il le posa doucement sur le pupitre, sans éveiller l'attention du maître, qui, au bout d'un instant, le prit machinalement, le versa dans la tasse, et l'avala avec grand appétit. Une seconde tasse fut apportée et avalée de même, avec renfort de pain et de beurre. Et Consuelo, qui était un peu taquine, lui dit en le voyant manger avec plaisir,
« Je le savais bien, maître, que tu n'avais pas déjeuné. »«
C'est vrai, » répondit-il sans humeur. « Je crois que je l'avais oublié. Cela m'arrive souvent quand je compose, et je ne m'en aperçois que dans la journée. » Quand j'éprouve des tiraillements d'estomac et des spasmes.
Et alors, tu bois de l'eau-de-vie, maître ?
Qui t'a dit cela, petite sotte ?
J'ai trouvé la bouteille.
Eh bien, que t'importe ? Ne vas-tu pas m'interdire l'eau-de-vie ?
Oui, je te l'interdirai. Tu étais sobre à Venise, et tu te portais bien.
Cela, c'est la vérité, dit le Porpora avec tristesse. Il me semblait que tout allait au plus mal, et qu'ici tout irait mieux. Cependant, tout va de mal en pis pour moi. La fortune, la santé, les idées, tout. »
Et il pencha sa tête dans ses mains.
« Veux-tu que je te dise pourquoi tu as de la peine à travailler ici ?»
reprit Consuelo qui voulait le distraire, par des choses de détail, de l'idée de découragement qui le dominait.
C'est que tu n'as pas ton bon café à la vénitienne qui donne tant de force et de gaieté. Tu veux t'exciter à la manière des Allemands avec de la bière et des liqueurs. Cela ne te va pas.
Ah, c'est encore la vérité, mon bon café de Venise. C'était une source intarissable de bons mots et de grandes idées. C'était le génie, c'était l'esprit qui coulait dans mes veines avec une douce chaleur. Tout ce qu'on boit ici rend triste ou fou.
« Eh bien, maître, prends ton café. »«
Ici ? Du café ? Je n'en veux pas. Cela fait trop d'embarras. Il faut du feu, une servante, une vaisselle qu'on lave, qu'on remue, qu'on casse avec un bruit discordant au milieu d'une combinaison harmonique. Non, pas de tout cela. Ma bouteille par terre entre mes jambes, c'est plus commode, c'est plutôt fait. »«
Cela se casse aussi ? Je l'ai cassée ce matin en voulant la mettre dans l'armoire. »
« Tu m'as cassé ma bouteille ? Je ne sais à quoi tiens, petite laide, que je ne te casse ma canne sur les épaules. »
« Bah, il y a 15 ans que vous me dites cela, et vous ne m'avez pas encore donné une chiquenaude. Je n'ai pas peur du tout. »
« Babillarde, chanteras-tu ? Me tireras-tu de cette phrase maudite ? Je parie que tu ne la sais pas encore, tant tu es distraite ce matin. »
« Vous allez voir si je ne la sais pas par cœur, »
dit Consuelo en fermant le cahier brusquement. Et elle la chanta comme elle la concevait, c'est-à-dire autrement que le Porpora.
Connaissant son humeur, bien qu'elle eût compris dès le premier essai qu'il s'était embrouillé dans son idée et qu'à force de la travailler, il en avait dénaturé le sentiment, elle n'avait pas voulu se permettre de lui donner un conseil. Il l'eût rejeté par esprit de contradiction. Mais en lui chantant cette phrase à sa propre manière, tout en feignant de faire une erreur de mémoire, elle était bien sûre qu'il en serait frappé. À peine l'eut-il entendu qu'il bondit sur sa chaise en frappant dans ses deux mains et en s'écriant « La voilà ! La voilà ! Voilà ce que je voulais et que je ne pouvais pas trouver ! Comment diable cela t'est-il venu ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez écrit ? Ou bien, est-ce que le hasard... Si fait, c'est votre phrase. « Non, c'est la tienne, fourbe !» s'écria le Porpora, qui était la candeur même, et qui, malgré son amour maladif et immodéré de la gloire, n'eut jamais rien fardé par vanité. « C'est toi qui l'as trouvée, répète-la-moi. Elle est bonne, et j'en fais mon profit. » Consuelo recommença plusieurs fois, et le Porpora écrivit sous sa dictée. Puis il pressa son élève sur son cœur en disant « Tu es le diable. J'ai toujours pensé que tu étais le diable. »« Un bon diable, croyez-moi, maître, » répondit Consuelo en souriant. Le Porpora, transporté de joie d'avoir sa phrase, après une matinée entière d'agitation stérile et de torture musicale, chercha par terre machinalement le goulot de sa bouteille. Et, ne le trouvant pas, il se remit à tâtonner sur le pupitre et avala au hasard ce qui s'y trouvait. C'était du café exquis que Consuelo lui avait savamment et patiemment préparé en même temps que le chocolat, et que Joseph venait d'apporter, tout brûlant, à un nouveau signe de son ami. « Oh, nectar des dieux ! Oh, ami des musiciens !» s'écria le Porpora en le savourant. « Quel est l'ange, quelle est la fée qui t'a apporté de Venise sous son aile ?»« C'est le diable, » répondit Consuelo. « Tu es un ange et une fée, ma pauvre enfant, » dit le Porpora avec douceur en retombant sur son pupitre. « Je vois bien que tu m'aimes, que tu me soignes, que tu veux me rendre heureux, jusqu'à ce pauvre garçon qui s'intéresse à mon sort. » ajouta-t-il en apercevant Joseph, qui, debout au seuil de l'antichambre, le regardait avec des yeux humides et brillants. « Ah, mes pauvres enfants, vous voulez adoucir une vie bien déplorable ? Imprudent, vous ne savez pas ce que vous faites. Je suis voué à la désolation, et quelques jours de sympathie et de bien-être me feront sentir plus vivement l'horreur de ma destinée quand ces beaux jours seront envolés. « Je ne te quitterai jamais, je serai toujours ta fille et ta servante, » dit Consuelo en lui jetant ses bras autour du cou. Le Porpora enfonça sa tête chauve dans son cahier et fondit en larmes. Consuelo et Joseph pleuraient aussi, et Keller, que la passion de la musique avait retenu jusque-là, et qui, pour motiver sa présence, s'occupait à arranger la perruque du maître dans l'antichambre, voyant par la porte entr'ouverte le tableau respectable et déchirant de sa douleur, la piété filiale de Consuelo et l'enthousiasme qui commençait à faire battre le cœur de Joseph pour l'illustre vieillard, laissa tomber son peigne et, prenant la perruque du Porpora pour un mouchoir, il la porta à ses yeux, plongé qu'il était dans une sainte distraction. Pendant quelques jours, Consuelo fut retenu à la maison par un rhume. Elle avait bravé, pendant ce long et aventureux voyage, toutes les intempéries de l'air, tous les caprices de l'automne, tantôt brûlants, tantôt pluvieux et froids, suivant les régions diverses qu'elle avait traversées. Vêtue à la légère, coiffée d'un chapeau de paille, n'ayant ni manteau ni habit de rechange lorsqu'elle était mouillée, elle n'avait pourtant pas eu le plus léger enrouement. À peine fut-elle claquemurée dans ce logement sombre, humide et mal aéré du Porpora, qu'elle sentit le froid et le malaise paralyser son énergie et sa voix. Le Porpora eut beaucoup d'humeur de ce contretemps. Il savait que pour obtenir à son élève un engagement au théâtre italien, il fallait se hâter, car Madame Tesi, qui avait désiré se rendre à Dresde, paraissait hésiter,
séduite par les instances de Caffariello et les brillantes propositions de Holzbauer, jaloux d'attacher au théâtre impérial une cantatrice aussi célèbre. D'un autre côté, la Corilla, encore retenue au lit par les suites de son accouchement, faisait intriguer auprès des directeurs ceux de ses amis qu'elle avait retrouvés à Vienne, et se faisait fort de débuter dans 8 jours si on avait besoin d'elle. Le Porpora désirait ardemment que Consuelo fût engagée, et pour elle-même, et pour le succès de l'opéra qu'il espérait faire accepter avec elle. Consuelo, pour sa part, ne savait à quoi se résoudre. Prendre un engagement, c'était reculer le moment possible de sa réunion avec Albert. C'était porter l'épouvante et la consternation chez les Rudolfstadt, qui ne s'attendaient certes pas à ce qu'elle reparût sur la scène. C'était, dans leur opinion, renoncer à l'honneur de leur appartenir, et signifier au jeune comte qu'elle lui préférait la gloire et la liberté. D'un autre côté, refuser cet engagement, c'était détruire les dernières espérances du Porpora. C'était lui montrer à son tour cette ingratitude qui avait fait le désespoir et le malheur de sa vie. C'était enfin lui porter un coup de poignard. Consuelo, effrayée de se trouver dans cette alternative, et voyant qu'elle allait frapper un coup mortel, quelque parti qu'elle pût prendre, tomba dans un morne chagrin. Sa robuste constitution la préserva d'une indisposition sérieuse. Mais, durant ces quelques jours d'angoisse et d'effroi, en proie à des frissons fébriles, à une pénible langueur, accroupie auprès d'un maigre feu ou se traînant d'une chambre à l'autre pour vaquer aux soins du ménage, elle désira et espéra tristement qu'une maladie grave vint la soustraire aux devoirs et aux anxiétés de sa situation. L'humeur du Porpora, qui s'était épanouie un instant, redevint sombre, querelleuse et injuste dès qu'il vit Consuelo, la source de son espoir et le siège de sa force, tombait tout à coup dans l'abattement et l'irrésolution. Au lieu de la soutenir et de la ranimer par l'enthousiasme et la tendresse, il lui témoigna une impatience maladive qui acheva de la consterner. Tour à tour faible et violent, le tendre et irascible vieillard, dévoré du spleen qui devait bientôt consumer Jean-Jacques Rousseau, voyait partout des ennemis, des persécuteurs et des ingrats, sans s'apercevoir que ses soupçons, ses emportements et ses injustices provoquaient et motivaient un peu chez les autres les mauvaises intentions et les mauvais procédés qu'il leur attribuait. Le premier mouvement de ceux qu'il blessait était ainsi de le considérer comme fou, le second de le croire méchant, le troisième de se détacher, de se préserver ou de se venger de lui. Entre une lâche complaisance et une sauvage misanthropie, il y a un milieu que le Porpora ne concevait pas et auquel il n'arriva jamais. Consuelo, après avoir tenté d'inutiles efforts, voyant qu'il était moins disposé que jamais à lui permettre l'amour et le mariage, se résigna à ne plus provoquer des explications qui aigrissaient de plus en plus les préventions de son infortuné maître. Elle ne prononça plus le nom d'Albert et se tint prête à signer l'engagement qui lui serait imposé par le Porpora. Lorsqu'elle se retrouvait seule avec Joseph, elle éprouvait quelque soulagement à lui ouvrir son cœur. « Quelle destinée bizarre est la mienne !» lui disait-elle souvent. « Le ciel m'a donné des facultés et une âme pour l'art, des besoins de liberté, l'amour d'une fière et chaste indépendance. » Mais en même temps, au lieu de me donner ce froid et féroce égoïsme qui assure aux artistes la force nécessaire pour se frayer une route à travers les difficultés et les séductions de la vie, cette volonté céleste m'a mis dans la poitrine un cœur tendre et sensible qui ne bat que pour les autres, qui ne vit que d'affection et de dévouement. Ainsi, partagé entre deux forces contraires, ma vie s'use et mon but est toujours manqué. Si je suis né pour pratiquer le dévouement, Dieu veuille donc ôter de ma tête l'amour de l'art, la poésie et l'instinct de la liberté, qui font de mes dévouements un supplice et une agonie.
si je suis née pour l'art et pour la liberté, qu'il ôte donc de mon cœur la pitié, l'amitié, la sollicitude et la crainte de faire souffrir, qui empoisonneront toujours mes triomphes et entraveront ma carrière. « Si j'avais un conseil à te donner, pauvre Consuelo, » répondait Hind, « ce serait d'écouter la voix de ton génie et d'étouffer le cri de ton cœur. Mais je te connais bien maintenant, et je sais que tu ne le pourras pas. » « Non, je ne le peux pas, Joseph, et il me semble que je ne le pourrai jamais. Mais vois mon infortune, vois la complication de mon sort étrange et malheureux. Même dans la voie du dévouement, je suis si bien entravée et tiraillée en sens contraire que je ne puis aller où mon cœur me pousse sans briser ce cœur qui voudrait faire le bien de la main gauche comme de la main droite. Si je me consacre à celui-ci, j'abandonne et laisse périr celui-là. J'ai par le monde un époux adoptif dont je ne puis être la femme sans tuer mon père adoptif. Et réciproquement, si je remplis mes devoirs de fille, je tue mon époux. Il a été écrit que la femme quitterait son père et sa mère pour suivre son époux. Mais je ne suis, en réalité, ni épouse ni fille. La loi n'a rien prononcé pour moi. La société ne s'est pas occupée de mon sort. Il faut que mon cœur choisisse. La passion d'un homme ne le gouverne pas. Et dans l'alternative où je suis, la passion du devoir et du dévouement ne peut pas éclairer mon choix. Albert et le Porpora sont également malheureux, également menacés de perdre la raison ou la vie. Je suis aussi nécessaire à l'un qu'à l'autre. Il faut que je sacrifie l'un des deux. Et pourquoi? Si vous épousiez le comte, le Porpora n'irait-il pas vivre près de vous deux? Vous l'arracheriez ainsi à la misère, vous le ranimeriez par vos soins, vous accompliriez vos deux dévouements à la fois. S'il pouvait en être ainsi, je te jure, Joseph, que je renoncerais à l'art et à la liberté. Mais tu ne connais pas le Porpora. C'est de gloire et non de bien-être et de sécurité qu'il est avide. Il est dans la misère et il ne s'en aperçoit pas. Il en souffre sans savoir d'où lui vient son mal. D'ailleurs, rêvant toujours des triomphes et l'admiration des hommes, il ne saurait descendre à accepter leur pitié. Sois sûr que sa détresse est, en grande partie, l'ouvrage de son incurie et de son orgueil. S'il disait un mot, il a encore quelques amis, on viendrait à son secours. Mais, outre qu'il n'a jamais regardé si sa poche était vide ou pleine, tu as bien vu qu'il n'en sait pas davantage à l'égard de son estomac. Il aimerait mieux mourir de faim enfermé dans sa chambre que d'aller chercher l'aumône d'un dîner chez son meilleur ami. Il croirait dégrader la musique s'il laissait soupçonner que le Porpora a besoin d'autre chose que de son génie, de son clavecin et de sa plume. Aussi, l'ambassadeur et sa maîtresse, qui le chérissent et le vénèrent, ne se doutent-ils en aucune façon du dénouement où il se trouve? S'il lui voit habiter une chambre étroite et délabrée, il pense que c'est parce qu'il aime l'obscurité et le désordre. Lui-même ne leur dit-il pas qu'il ne saurait composer ailleurs? Moi, je sais le contraire. Je l'ai vu grimper sur les toits à Venise pour s'inspirer des bruits de la mer et de la vue du soleil. Si on le reçoit avec ses habits malpropres, sa perruque râpée et ses souliers percés, on croit faire acte d'obligeance. « Il aime la saleté, se dit-on. C'est le travers des vieillards et des artistes. Ses guenilles lui sont agréables. Il ne saurait marcher dans des chaussures neuves. » Lui-même l'affirme. Mais moi, je l'ai vu dans mon enfance, propre, recherché, toujours parfumé, rasé et secouant avec coquetterie les dentelles de sa manchette sur l'orgue ou le clavecin. C'est que, dans ce temps-là, il pouvait être ainsi sans devoir rien à personne. Jamais le Porpora ne se résignerait à vivre oisif et ignoré au fond de la bohème à la charge de ses amis. Il n'y resterait pas 3 mois sans maudire et injurier tout le monde, croyant que l'on conspire sa perte et que ses ennemis l'ont fait enfermer pour l'empêcher de publier et de faire représenter ses ouvrages. Il partirait un beau matin en secouant la poussière de ses pieds, et il reviendrait chercher sa mansarde, son clavecin rongé des rats, sa fatale bouteille et les chers manuscrits. Et vous ne voyez pas la possibilité d'amener à Vienne, ou à Venise, ou à Dresde, ou à Prague, dans quelque ville musicale, enfin, votre comte Albert? Riche, vous pourriez vous établir partout, vous y entourer de musiciens, cultiver l'art d'une certaine façon, et laisser le champ libre à l'ambition du porpora, sans cesser de veiller sur lui. Après ce que je t'ai raconté du caractère et de la santé d'Albert, comment peux-tu me faire une pareille question? Lui qui ne peut supporter la figure d'un indifférent, comment affronterait-il cette foule de méchants et de sots qu'on appelle le monde? Et quelle ironie, quel éloignement, quel mépris le monde ne prodiguerait-il pas à cet homme saintement fanatique, qui ne comprend rien à ses lois, à ses mœurs et à ses habitudes? Tout cela est aussi hasardeux à tenter sur Albert que ce que j'essaie maintenant en cherchant à me faire oublier de lui. Soyez certaine, cependant, que tous les maux lui paraîtraient plus légers que votre absence. S'il vous aime véritablement, il supportera tout, et s'il ne vous aime pas assez pour tout supporter et tout accepter, il vous oubliera. Aussi, j'attends et ne décide rien. Donne-moi du courage, Beppo, et reste près de moi, afin que j'aie du moins un cœur où je puisse répandre ma peine, et à qui je puisse demander de chercher avec moi l'espérance. Oh, ma sœur, sois tranquille, s'écriait Joseph. Si je suis assez heureux pour te donner cette légère consolation, je supporterai tranquillement les bourrasques du porpora. Je me laisserai même battre par lui si cela peut lui distraire du besoin de te tourmenter et de t'affliger. En devisant ainsi avec Joseph, Consuelo travaillait sans cesse, tantôt à préparer avec lui les repas communs, tantôt à raccommoder les nippes du porpora. Elle introduisit, un à un, dans l'appartement, les meubles qui étaient nécessaires à son maître. Un bon fauteuil bien large et bien bourré de crins remplaça la chaise de paille où il reposait ses membres affaissés par l'âge. Et quand il y eut goûté les douceurs de la sieste, il s'étonna et demanda, en fronçant le sourcil, d'où lui venait ce bon siège. « C'est la maîtresse de la maison qui l'a fait monter ici, » répondit Consuelo. « Ce vieux meuble l'embarrassait, et j'ai consenti à le placer dans un coin jusqu'à ce qu'elle le redemandât. » Les matelas du porpora furent changés, et il ne fit, sur la bonté de son lit, d'autres remarques que de dire qu'il avait retrouvé le sommeil depuis quelques nuits. Consuelo lui répondit qu'il devait attribuer cette amélioration au café et à l'abstinence d'eau-de-vie. Un matin, le porpora, ayant endossé une excellente robe de chambre, demanda d'un air soucieux à Joseph où il l'avait retrouvé. Joseph, qui avait le mot, répondit qu'en rangeant une vieille malle, il l'avait trouvée au fond. « Je croyais ne l'avoir pas apportée ici, » reprit le porpora. « C'est pourtant bien celle que j'avais à Venise. C'est la même couleur, du moins. »« Et quelle autre pourrait-ce être ?» répondit Consuelo, qui avait eu soin d'assortir la couleur à celle de la défunte robe de chambre de Venise. « Eh bien, je la croyais plus usée que cela, » dit le maestro en regardant ses coudes. « Je le crois bien, » reprit-elle. « J'y ai remis des manches neuves. »« Et avec quoi ?»« Avec un morceau de la doublure. »« Ah, les femmes sont étonnantes pour tirer parti de tout. » Quand l'habit neuf fut introduit, et que le porpora lui portait de jour, quoiqu'il fût de la même couleur que le vieux, il s'étonna de le trouver si frais. Et les boutons, surtout, qui étaient fort beaux, lui donnèrent à penser. « Cet habit-là n'est pas à moi, » dit-il d'un ton grondeur. « J'ai ordonné à Beppo de le porter chez un dégraisseur, » répondit Consuelo. « Tu l'avais taché hier soir. On l'a repassé, et voilà pourquoi tu le trouves plus frais. » « Je te dis qu'il n'est pas à moi !» s'écria le maestro hors de lui. « On me l'a changé chez le dégraisseur. Ton Beppo est un imbécile. »«
On ne l'a pas changé, j'y avais fait une marque. »«
Et ces boutons-là, penses-tu me faire avaler ces boutons-là » ?»«
C'est moi qui ai changé la garniture et qui l'ai cousue moi-même. L'ancienne était gâtée entièrement. » »«
Cela te fait plaisir à dire. Elle était encore fort présentable. »
voilà une belle sottise. Suis-je un céladon pour m'attifer ainsi et payer une garniture de 12 sequins au moins ?»«
Elle ne coûte pas 12 florins, » repartit Consuelo. « Je l'ai achetée de hasard. »«
C'est encore trop !» murmura le maestro.
Toutes les pièces de son habillement lui furent glissées de même, à l'aide d'adroits mensonges qui faisaient rire Joseph et Consuelo comme deux enfants. Quelques objets passèrent inaperçus, grâce à la préoccupation du porpora. Les dentelles et le linge entrèrent discrètement par petites portions dans son armoire, et lorsqu'il semblait les regarder sur lui avec quelque attention, Consuelo s'attribuait l'honneur de les avoir reprisés avec soin. Pour donner plus de vraisemblance aux faits, elle raccommodait sous ses yeux quelques-unes des anciennes hardes et les entremêlait avec les autres.
« Ah, ça !» lui dit un jour le porpora en lui arrachant des mains un jabot qu'elle recousait. « Voilà assez de futilité. Une artiste ne doit pas être une femme de ménage, et je ne veux pas te voir ainsi tout le jour courbée en deux, une aiguille à la main. Serre-moi tout cela ou je le jette au feu. Je ne veux pas non plus te voir autour des fourneaux faisant la cuisine et avalant la vapeur du charbon. Veux-tu perdre ta voix? Veux-tu te faire laveuse de vaisselle? Veux-tu me faire damner ?»«
Ne vous damnez pas, » répondit Consuelo. « Vos effets sont en bon état maintenant, et ma voix est revenue. »
« À la bonne heure, » répondit le maestro. « En ce cas, tu chantes demain chez la comtesse Auditz, margrave douairière de Barreit. »